De Maupassant, autre temps. Quand un gentilhomme, au siècle dernier, ruine également sa maîtresse, il en acquérait aussitôt un surcroît de bonne réputation. Si la maîtresse ainsi dépouillée était une grande dame, si abandonnée aussitôt sa bourse vide, elle était remplacée par une autre, que le séducteur dévalisait avec la même aisance et le même appétit, il devenait, lui, un roué, un homme à la mode, considéré, envié, respecté, jalousé, salué jusqu'à terre et jouissant de toutes les faveurs des puissants et des femmes. Hélas, hélas, un siècle plus tard, la jeunesse dite des écoles, affichant et pratiquant une morale toute différente de celle des anciens grands seigneurs, s'exaltant au nom de principes sévères, se précipite avec fureur sur les quelques êtres restés seuls dans la tradition du passé, notre grand passé d'aristocratique élégance, et les jette à l'eau pour voir s'ils nagent. Et ces victimes supposées, mais non atteintes, ces descendants des roués, sont des malheureux, des pauvres, déshérités par la Providence, sans ressources sur le pavé de Paris, et créés avec des instincts de millionnaires, des besoins de dépenses mal servis par une mollesse native qui les éloigne du travail. Ils se sont fait ce raisonnement, qui paraîtrait juste si nous le savions faux, à savoir qu'il existe par le monde des milliers de femmes dont la seule profession consiste à ruiner des hommes en profitant des sentiments malsains qu'elles leur inspirent. Donc, il est simplement équitable de reprendre à ces mêmes femmes l'argent qu'elles ont obtenu par ces moyens déshonnêtes, en leur inspirant à leur tour des sentiments non moins malsains. C'est tout simplement le principe de la médecine homéopathique appliquée à la morale, le mal traité par le pire. Or, si la méthode homéopathique guérit, concluons. Il résultait de tout cela que les vengeurs de l'honnêteté ont été battus, emprisonnés, aplatis, écrabouillés par la milice chargée de veiller sur l'ordre public, que les noyés étaient de simples et inoffensifs bourgeois revenant de leur bureau et rentrant dans leur famille, que les commerçants en femmes, dits souteneurs, ne pourront que profiter de la réclame qui leur est ainsi faite gratuitement, que les gardiens de la paix qui ont fait leur devoir seront révoqués, et le préfet de police qui n'en peut mais renverser sans doute. Donc, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et voilà à quoi servent les émeutes pour la bonne cause, les révolutions, les indignations et en général tous les sentiments valeureux qui arment le bras des hommes de dévouement. On est assurément plus sage au champ. La scène qui suit n'est que fidèlement racontée. Je l'ai vu, dis-je, vu de mes propres yeux, vu, etc., dans la salle de la justice de paix en Normandie. Le juge, gros homme asthmatique, siège devant une large table, flanquée de son greffier. Il est vêtu d'un veston gris orné de boutons de métal, et il parle lentement en expectorant de l'air qui siffle dans ses yeux respiratoires, comme si une fuite s'y fût déclarée. Au fond de la grande pièce, des paysans en blouse bleue, assis sur des bancs, la casquette ou le chapeau entre les jambes. Ils sont graves, abrutis et rusés, et ils préparent mentalement des arguments pour leur affaire. À tout moment, ils crachent à côté de leurs pieds chaussés d'un soulier grand comme une barque de pêche. Et une mare de salive marque la place de chacun. En face du juge, juste de l'autre côté de la table, les plaideurs dont la cause est appelée. La plaignante est une dame de la campagne, dont la cinquantaine coupe rosée flamboie sous un chapeau légumier qui semble chargé d'asperges en graines, de radis et d'oignons montés. Elle est sèche, pointue, horrible et prétentieuse, avec des gants de tricot. Et les rubans de sa coiffure voltigent autour de sa tête comme les drapeaux d'un navire. Le prévenu, gros gars de 28 ans, joufflu, niais, semble un enfant de cœur engraissé et grossi trop vite. Elle et lui se lancent des regards féroces. Il est assisté, soutenu par son père, vieux paysan tout pareil à un rat, et par sa jeune femme, rouge de fureur, mais fraîche aussi, grande fille de ferme, saine et pommadée, chère à reproduction, bon imprimé dans un concours. Voici les faits. La dame, veuve d'un officier de santé, avait élevé à la brochette le jeune paysan et le réservait à ses plaisirs. Après beaucoup de services rendus par lui, elle lui avait fait don d'une petite ferme pour reconnaître sa bonne volonté. Mais le gars, ainsi doté, s'était aussitôt marié, délaissant la vieille qui, exaspérée, réclamait son bien. Le garçon ou la ferme, au choix. Le juge, très perplexe, venait d'écouter la plainte de la dame. Personne ne riait dans l'auditoire. La cause était grave et méritait réflexion. Le gars, à son tour, se leva pour répondre. Le juge l'interrogea. « Qu'avez-vous à dire ?»« Bon, me l'a donné, cette ferme. »« Mais pourquoi vous l'a-t-elle donnée ? Qu'avez-vous fait pour la mériter ?» Alors le gars, indigné, devint rouge jusqu'aux oreilles. « Ce que j'ai fait, mon bon monsieur, juge de paix, mais v'là 15 ans comme sert de traîner ce poison, on peut pas dire que ça valait pas ça. » Cette fois, un murmure eut lieu parmi les assistants et des voix convaincues répétaient « Oh, ça oui, ça valait bien ça. » Et le père, jugeant le moment venu d'intervenir, « Croyez-vous que j'aurais donné l'enfant d'un âge de 15 ans si j'ai mis au point compté sur la reconnaissance ?» Alors la jeune femme, à son tour, s'avança véhémente, exaspérée, et levant la main vers la dame impassible et rouge. « Mais guettez-la, monsieur le juge, guettez-la, si on peut dire que ça valait pas ça !» Le juge, en effet, considéra longuement la vieille, consulta son greffier, comprit qu'en effet, ça valait bien ça, et renvoya la plaignante. Et l'assistance entière approuva la décision. Et nunc et udimini, et maintenant vous savez tout.